Bonjour, Madame Rodic. Ah, vous êtes venue avec vos enfants. Et votre mari, il est...
Pas là.
Bon. Suivez-moi.
Donc, comme je vous disais, je souhaite obtenir un prêt pour ouvrir ma boutique de cosmétiques naturels.
Je vous arrête tout de suite, mais le prêt, c'est non. Madame Rodic, votre dossier est, disons, léger. Comment vous dire ? Écoutez, vous connaissez le standing de la banque. On ne s'engage que sur des projets sérieux qui tiennent la route.
Anita Rodic n'en croit pas ses oreilles. Son dossier, léger ? Elle qui a monté un bed and breakfast, un hôtel et un restaurant de burgers à succès ? Le banquier vient de lui refuser tout net sa demande de prêt sans plus d'explications ni de véritable motivation. Enfin si, Anita est une femme. Qui plus est, une femme qui a osé se présenter au rendez-vous en t-shirt Bob Dylan et en jean. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'incroyable parcours d'Anita Rodic, une femme audacieuse et engagée, fondatrice de la chaîne de magasins de cosmétiques à succès, The Body Shop. Dans ce premier épisode, Anita se lance, mais les embûches sont nombreuses. Et oui, elle est une femme avec des enfants. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. Anita Lucia Perella est née le 23 octobre 1942 à Littlehampton, en Angleterre, dans une famille d'immigrés italiens. Au Clifton Café, le restaurant de ses parents, les journées commencent très tôt et terminent tard le soir.
Anita, apporte les frites, table 3, s'il te plaît.
La petite Anita grandit au milieu des assiettes de frites, des bananes split et de la centaine de clients qui défilent chaque jour. La fillette apprend très vite l'art de commercer, qu'elle exerce d'ailleurs jusque dans la cour d'école.
J'échange 2 chewing-gums d'Hollywood contre 5 cartes. Un Captain Marvel, c'est 15 cartes. Ça vient d'Amérique.
Alors qu'elle n'a que 10 ans, son père meurt brutalement. La famille, trimant déjà pour gagner tout juste de quoi subvenir à ses besoins, doit redoubler de travail. Forte tête, Gilda, la mère d'Anita, ne se laisse pas abattre. Soucieuse d'économiser le moindre centime, elle apprend très tôt à ses enfants l'art de la frugalité et du recyclage. Ce qui marquera à jamais Anita.
Fais ce que tu veux, mais surtout ne sois pas médiocre.
C'est avec les mots de sa mère en tête qu'Anita entre à l'école d'instituteur après le lycée. Puis, après une première expérience en tant que professeur d'histoire et d'anglais, elle décide de partir pour Paris, puis voyage en Grèce et en Suisse. Alors qu'elle s'est à peine tapée à la machine et n'ayant qu'une vague idée du secrétariat, Anita réussit grâce à son bagou et sa bonne humeur à se faire embaucher par l'Organisation internationale du travail au sein de l'ONU. Elle travaille d'ailleurs au département du droit des femmes. Mais comme toujours, Anita a la bougeotte. Après une belle expérience et avoir pu économiser suffisamment d'argent, elle entame un voyage vers Tahiti, l'Australie, Madagascar, l'île Maurice, puis l'Afrique du Sud. Avant de se faire tout simplement expulser.
Mademoiselle Perella, vous n'êtes plus la bienvenue en Afrique du Sud. Vous avez enfreint les règles, vous devez retourner en Angleterre.
Pardon ? Mais comment ça, j'ai enfreint les règles ? Vouloir entrer en boîte de nuit n'a rien d'illégal que je sache.
Une blanche n'a rien à faire dans cet endroit. C'est réservé aux noirs ici.
Blanc, noir, jaune. Mais nous sommes tous humains. Honte à vous.
À peine de retour en Angleterre, dans le club El Cubana que sa mère tient depuis la vente du restaurant, Anita rencontre celui qui va devenir son mari, Gordon Rodic.
Anita, je te présente Gordon.
4 jours plus tard, ils emménagent ensemble. Anita retrouve rapidement un poste d'enseignante, pendant que Gordon gagne quelques sous entre l'écriture de poèmes et un travail agricole. La naissance de leur première fille, Justine, leur donne l'envie de nouveaux projets. En 1970, avec leur petite Justine sous le bras et une Anita enceinte jusqu'au cou, ils partent s'installer aux États-Unis. Ils se marient sur un coup de tête à Reno. Ils voyagent, profitent de la vie, étudient les possibilités d'entreprendre. Mais avec la naissance de Samantha en juillet 1971, le couple songe sérieusement à se poser et doit trouver une idée d'entreprise qui pourrait leur laisser le temps de s'occuper de leur fille. De retour à Littlehampton, ils achètent une vieille maison victorienne qu'ils retapent avec les moyens du bord et la transforment en bed and breakfast qui fait carton plein tout l'été. Sauf que la saison hivernale n'est pas vraiment propice à cette activité et avec les coûts d'entretien, le couple se trouve rapidement au bord de la faillite. Ni une ni deux, ils reconvertissent le lieu en un hôtel résidentiel et sauvent de justesse leur petite entreprise.
Mesdames et messieurs, venez déguster la bonne cuisine italienne de notre nouveau restaurant, le Paddington.
Lasagne, quiche et soupe maison vous attendent au menu.
Mais les clients ne sont pas au rendez-vous. Trop chic pour la petite ville de Littlehampton. Le restaurant reste vide.
Bon, on fait quoi maintenant?
Eh ben, on change la carte. Omelette, frites et burgers au menu.
Ambiance rock et America.
Et miracle. Dès le premier soir, le Paddington's affiche complet. Après 3 ans d'un beau succès, Anita et Gordon sont épuisés par le restaurant. Il est temps de changer de cap. Gordon rêve de partir à cheval de Buenos Aires jusqu'à New York. Anita, qui trouve l'idée géniale, le soutient dans son projet. Mais comment subvenir à leurs besoins ? Hors de question pour Anita de vivre seule le rythme infernal du Paddington's. Son rêve, démarrer une petite boutique ouverte de 9h à 5h. De quoi lui laisser le temps de s'occuper de ses deux filles. Anita passe alors ses journées à lire les secrets beauté de grand-mère et s'essaye à toutes les recettes. Parce que c'est décidé, sa boutique proposera des cosmétiques naturels.
Alors, un bouquet de menthe, ok. Puis ajouter le jus d'un citron. Oh non, zut, j'ai oublié l'huile de géranium.
À l'époque, les produits de beauté sont chers et contiennent peu d'ingrédients naturels, ce qui la scandalise. Gordon, lui, trouve l'idée géniale. Sauf que le banquier n'est pas du même avis et lui refuse sa première demande de prêt. Un magasin de produits cosmétiques naturels rechargeables et dans des emballages recyclables. Encore une idée de hippie à la noix. Semble-t-il se dire dans sa tête, tout en scrutant la tête de Bob Dylan sur le t-shirt d'Anita. Lucide, Anita se rend vite compte que pour obtenir l'argent dont elle a besoin pour se lancer, elle doit jouer sur les apparences. Vêtue d'un tailleur sobre, accompagnée cette fois de son mari, et d'un dossier aussi épais qu'une encyclopédie, elle retourne à la banque. Le tour est joué, le prêt est accordé. Et c'est ainsi que la première boutique, The Body Shop, voit le jour à Brighton, le 26 mars 1976.
Steve, tu vas mettre les savons liquides dans les petites bouteilles de gauche.
Et qu'est-ce qu'on fait des crèmes ?
Ah, je sais. On va les mettre dans les fioles à urine.
Des fioles à urine ? Vraiment, Anita ?
Le recyclage, c'est la base. Une copine à l'hôpital me les a filées en douce. Ils en avaient en rab. Je savais que ça servirait.
Le manque d'argent pousse Anita à trouver des solutions économiques. Et c'est ainsi qu'elle propose à ses clients de rapporter les bouteilles vides afin de les réutiliser, ne pouvant se permettre d'ailleurs d'en acheter en grande quantité. Sans stratégie marketing ni business plan, mais avec les enseignements de sa mère ancrés dans les veines et forte du succès de sa première boutique, Anita ouvre un deuxième magasin, 10 mois plus tard. Il faut dire qu'à l'ère du baba cool, l'aloe vera, le beurre de cacao du Ghana et autres ingrédients naturels à consonance exotique, on le vend en poupe. À son retour, Gordon met rapidement la main à la pâte et devient directeur des finances et du développement commercial. Anita, elle, parcourt le monde à la recherche de nouvelles plantes et d'agréments naturels pour compléter son offre cosmétique. Elle souhaite également trouver des partenariats avec des producteurs locaux afin de faciliter l'approvisionnement. Au cours de l'année 82, The Body Shop ouvre deux nouvelles boutiques par mois et en 1984, l'entreprise est introduite en bourse. À la fin de l'année 1992, The Body Shop compte 700 magasins et génère 231 millions de dollars de ventes.
Mesdames et messieurs, après avoir sauvé les baleines avec Greenpeace, lutté contre le réchauffement climatique, protégé la forêt amazonienne, la voici aujourd'hui qui se bat contre les tests sur les animaux. Mesdames et messieurs, Anita Roddick.
Je pense que les entreprises considèrent les droits de l'homme comme une nuisance, comme une menace pour leurs résultats financiers. Si les grandes entreprises sont plus puissantes que les gouvernements et ne se soucient pas des droits de l'homme, alors, sauf qui peut.
L'activisme social d'Anita permet à The Body Shop de se démarquer de ses concurrents et d'attirer des clients adeptes des causes défendues par l'entreprise. Ses campagnes engagées génèrent de la publicité gratuite, ce qui vaudra à Anita d'être taxée de « Mère Teresa du capitalisme ». Et ça, c'est une autre histoire à découvrir au prochain épisode. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous, seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.